Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Hier, mercredi, est sorti le film d'Emmanuel Bourdieu, Louis-Ferdinand Céline, deux clowns pour une catastrophe. Un film qui met en scène le grand écrivain français exilé au Danemark dans l'immédiate après-guerre. Et Franck Ferrand a donc décidé de nous parler de Céline cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les admirateurs du style et de l'œuvre de Céline sont nombreux, même très nombreux. Je dois vous dire d'entrée de jeu que je n'ai pas l'heure, pour ma part, d'être touché vraiment par ce que l'on considère comme le génie littéraire de cet auteur. Nul n'est parfait et comme on dit, je suis passé à côté. Peut-être bouscule-t-il tout simplement trop notre langue à mon goût. Peu importe, pour évoquer le créateur de Voyage au bout de la nuit, de Mort à crédit, j'ai convié cet après-midi l'un de ses meilleurs avocats littéraires, l'académicien Frédéric Vitoux, qui a été le premier doctorant en France à s'intéresser à Céline et donc à le faire connaître. Pour le moment, je vous propose de retrouver l'écrivain fugitif sur les routes de l'exil.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le 17 juin 1944, un train en provenance de la gare de l'Est à Paris arrive à Baden-Baden en Allemagne. Baden-Baden, c'est à quelques kilomètres de la frontière, à moins de 60 kilomètres de Strasbourg. Et parmi les passagers, un couple avec un chat. Il s'agit de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, vêtu d'une canadienne, avec deux énormes moufles en cuir fourrés, suspendus à son cou par une ficelle, et de son épouse, Lucette. Danseuse, nous allons parler de Lucette tout à l'heure, bien entendu. Le couple a décidé de fuir Paris et la France quelques jours plus tôt, après le débarquement américain, le débarquement allié du 6 juin 1944. Tout ça s'est fait dans la précipitation. Deux jours seulement après le débarquement, les autorités d'occupation ont donné à Céline et à sa compagne des visas pour l'Allemagne. Les valises ont été bouclées à la hâte, les avoirs liquidés. La plupart des manuscrits sont restés au domicile de l'écrivain, avec les meubles, avec les objets personnels. Céline et son épouse avaient pourtant songé à quitter la France depuis déjà longtemps. Ils sont d'ailleurs munis depuis plusieurs mois de faux papiers. Louis-Ferdinand Céline s'appelle, sur ces faux papiers, Louis-François Delétang. Il est censé être né à Montréal. Il serait représentant de commerce. C'est en tout cas ce qu'annoncent les papiers. Quant à Lucette, elle s'appelle maintenant Lucille Alcante, née à Pondichéry et professeure de culture physique. Baden-Baden, sur leur chemin d'exil, ne doit être qu'une étape. L'objectif de Céline et de sa femme, c'est de rejoindre un pays beaucoup plus nordique, c'est d'aller le plus vite possible au Danemark. Et si ça devait tourner mal, Céline a pris soin de prendre sur lui deux ampoules de cyanure, au cas où. Lorsque l'écrivain et son épouse arrivent à Baden-Baden, la ville n'est pas encore le repère des réfugiés de la collaboration qu'il va devenir dans quelques semaines. Dans la vie de Céline, voilà ce que nous dit Frédéric Vitoux. Baden-Baden avait encore toutes ses grâces et son luxe d'autrefois quand Napoléon III venait y prendre les eaux, quand la reine Victoria déambulait sous les ormes et les marronniers, quand Bismarck s'y trouvait encerclé tel un oracle par des myriades de diplomates. Céline, Lucette et le chat Bébert s'installent au Brenners Park Hotel, qui est un ancien établissement de luxe, un établissement avec piscine, jardin privé, des salons, comme on peut les faire dans tous ces grands palaces de stations balnéaires. Louis-Ferdinand Céline devait rester quelques jours à Baden-Baden. En vérité, il va y demeurer plus de deux mois. Avec sa compagne, il est témoin des derniers feux du Troisième Reich. Il voit des soldats qui sont des gamins de 14 ans dans les rues de la ville qui crient « Heil Hitler ». Il est témoin aussi de la liesse, puis de la déception au moment de l'attentat manqué contre Hitler le 20 juillet 1944. Il voit des soldats blessés de plus en plus nombreux qui remontent du front et qui engorgent les hôpitaux. Céline est médecin, ne l'oubliez pas. Il parle très bien l'allemand et il va aider à soigner certains de ses blessés. Au cours de l'été 44, le Brenners Park Club se remplit de collaborationnistes et c'est Lucette Destouches qui parle. Ces gens très mondains continuaient à vivre leur vie habituelle qui n'avait plus aucun sens puisqu'ils n'avaient plus de vie, plus de personnalité, plus d'identité, plus de papier. Rien. Ils continuaient à former une société, à bavarder à table, à s'inviter, à prendre le thé. Mais la nourriture devient de plus en plus chiche. C'en est fini du temps des gigots et des choux à la crème. Désormais, les hôtes du palace mangent des tempinambours et des rutabagas, comme tant d'autres l'ont fait pendant toute cette guerre. Et Céline subit très mal cette attente. Il s'ennuie de plus en plus. Au début du mois de septembre, après des semaines d'attente d'un visa pour le Danemark, il va enfin pouvoir quitter Baden-Baden avec sa compagne et son chat. Ils vont rester, 8 jours à Berlin. Berlin qui vient de subir des vagues de bombardements absolument extraordinaires et qui n'est plus qu'un tas de ruines fumantes. Et Céline, grâce à ses bonnes relations avec les autorités, se voit proposer de séjourner dans un grand domaine à une 60aine de kilomètres de Berlin, à Krenzlin. Ça va lui servir de refuge pendant désormais 1 mois et demi. À ce moment, en France, on peut dire que Louis-Ferdinand Céline fait partie de ce qu'on a inscrit sur la liste noire. Cette liste noire dressée par le Comité national des écrivains, composée de quasiment tous les grands auteurs qui se trouvent dans la résistance. Depuis Krenzlin, il entend donc parler d'une petite ville, Sigmaringen, où se trouve une enclave créée par les nazis pour regrouper le gouvernement français en exil, ainsi qu'un certain nombre de miliciens, les derniers miliciens, des collaborationnistes menacés, des intellectuels en fuite. Céline a envie de retrouver des Français et comme il est médecin, il se dit qu'il pourra soigner les blessés. Fin octobre 44, après le feu vert des autorités allemandes ou de ce qu'il en reste, Céline, son épouse, son chat Bébert quittent donc Krenzlin pour Sigmaringen.
Un extrait du signe de Tuonella de Jean Sibelius à l'instant sur Europe 1. C'est Louis-Ferdinand Céline qui est à l'honneur jusqu'à 15h avec l'histoire de son exil. C'est Franck Ferrand qui vous la raconte et il revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous faire revivre l'exil de l'écrivain Céline. Et ça y est, il est arrivé à Sigmaringen.
Novembre est donc arrivé, novembre 1944, lorsque Louis-Ferdinand Céline arrive à Sigmaringen avec sa casquette de toile bleue, sa canadienne de plus en plus délavée, avec des trous. Ça fait partie du personnage, évidemment, cette sorte de dégaine un peu étrange. Ça fait plusieurs semaines que de nombreux Français sont donc installés dans cette ville réputée pour ses maisons à colombages, pour son hôtel de ville au balcon fleuri, ses chapelles au clocher à bulbes. Bref, l'Allemagne éternelle, un peu une Allemagne de carte postale. Il s'installe donc au château de la ville qui a été réquisitionné par les autorités allemandes au propriétaire légitime. Le propriétaire n'est autre que la famille princière Hohenzollern-Sigmaringen. Je cite de nouveau Frédéric Vitoux. Construit sur son rocher, plongeant par sa façade nord sur le Danube et bordé d'une promenade ombragée de marronniers et de saules, le château de Sigmaringen a gardé des allures romantiques revues et corrigées par un décorateur de la métro Goldwyn-Mayer. Céline s'installe au premier étage, à la chambre 11, qui, disons-le, ressemble plutôt à un réduit, avec 2 lits, il n'y a même pas de table ou de chaise. Dans ce château, on croise évidemment d'anciens membres du gouvernement de Vichy, un certain nombre d'anciens militants de la cause, des journalistes de Radio Paris, des membres de la milice. Le maréchal Pétain est au sommet, au 7e étage, et au 6e se trouvent Pierre Laval et son épouse. Nous avions eu l'occasion de parler de Sigmaringen et de cette espèce d'atmosphère délétère, assez extraordinaire, des tout derniers temps de la collaboration. Céline est très occupée puisque, je vous l'ai dit, il est médecin, il est le médecin de cette colonie française en quelque sorte. Il soigne les réfugiés français, il a beaucoup de travail, il reçoit même le soir dans sa chambre d'hôtel transformée en salle de soins et c'est sa compagne qui endosse le rôle d'infirmière. avec souvent ses propres fonds. Il va acheter des médicaments, parfois en contrebande. On est dans une situation quasiment de fin du monde. Mais la nourriture manque, et manque de plus en plus cruellement. Les cartes d'alimentation donnent droit à des ersatz de saucissons, à des bouts de choux. Lucette, la femme de Céline, affirmera qu'elle pesait 40 kilos à cette époque. Elle continue malgré tout à faire de la danse, à s'entraîner. Mais Céline sait que ce séjour à Sigmaringen devrait être court. Les armées alliées ont franchi le Rhin. Les Américains et les troupes du nouveau gouvernement français se rapprochent. Et il est grand temps de solliciter pour lui les autorités allemandes. Il décroche en mars 45 son visa, ce visa qu'il attendait depuis longtemps, pour le Danemark. Le 22 mars, il prend le train avec son épouse et toujours avec le fidèle chat Bébert. Le voyage ne dure que 5 jours, mais il a l'air interminable. Voici ce qu'écrit Céline dans une lettre à un ami. Lucette avait mis Bébert dans une gypsière. Elle l'a porté ainsi sans boire, sans manger, sans pisser ni le reste pendant 18 jours et 18 nuits. Il n'a pas remué ni fait un seul miaou. Il se rendait compte de la tragédie. Nous avons changé 27 fois de train, tout perdu et brûlé en route, sauf le chat. Le 27 mars, Céline et son épouse arrivent donc dans la capitale danoise, à Copenhague. Ils ont vraiment, à ce moment-là, une triste allure. Lui a une barbe qui ronge son visage. Il doit faire jouer ses relations danoises pour obtenir une chambre dans un hôtel où il avait autrefois ses habitudes. À Copenhague, évidemment, la vie n'en est pas moins, un peu moins tendue, un peu plus agréable qu'elle n'avait pu l'être dans les différentes villes allemandes qu'ils ont jusqu'alors traversées. Ils habitent dans l'appartement d'une amie. Ils mangent maintenant à leur faim, mais c'est un autre tourment qui les tenaille, car Céline a peur. Il se laisse pousser la barbe, il se fait appeler Courcial, son épouse se fait appeler Lucie Jensen, lui prend contact avec un avocat pour obtenir l'autorisation officielle de résidence, il obtient un permis de séjour et pendant ce temps, en France, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui, sous l'inculpation de trahison. Les mois passent, le printemps, l'été, l'automne de cette année 1945, la vie est chère à Copenhague, Lucette donne des cours de danse. Céline se remet à écrire, mais il a, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de mal à retrouver l'inspiration. Il se sent seul. Noël approchait, raconte Lucette Destouches. C'est une grande fête que l'on prépare à l'avance dans les pays nordiques. Louis était très triste. Il avait des prémonitions. Il entendait les meubles craquer pendant que j'étais parti donner mes leçons dans les entrepôts de poissons. Pourtant, il n'était pas du genre Victor Hugo à consulter les esprits et faire tourner les tables. Mais il y avait ce bruit bizarre d'une grosse armoire qui semblait bouger, gronder près de nous. Pour lui, pas de doute, c'était un signe, un avertissement. Le dimanche 16 décembre, donc 45, le quotidien danois Politiken titre « Un nazi français se cache à Copenhague ». Lucette reçoit alors un coup de téléphone de la femme du fils du chef de la police de Copenhague. « Partez tous les deux n'importe où, on va vous arrêter. » Mais sans argent, sans passeport, impossible de partir. Le lendemain, le chef de la légation de France au Danemark téléphone au directeur de cabinet du ministre danois des Affaires étrangères et lui demande de faire arrêter Céline, qui a été reconnue par un marchand de journaux. Et le soir même, trois policiers se présentent au 20 Venstranden. Voilà ce que raconte Lucette. « Nous avons cru qu'il s'agissait d'assassins venus de Paris pour nous exécuter. Nous avons refusé de leur ouvrir. J'ai regardé par le trou de la serrure, ils étaient habillés en civil. Ils ont frappé plus fort. » Paniqués, nous avons songé à filer par les toits où Bébert s'était déjà glissé. Ce n'était pas facile, une lucarne, Louis ne pouvait pas me suivre. Finalement, les policiers sont entrés, ils ont trouvé le revolver que nous avions à portée de main. Bien sûr, on ne s'en était pas servi contre eux, mais on aurait pu vouloir nous tuer nous-mêmes, vous savez, la panique. L'écrivain est arrêté, puis écroué à la prison Westerfengsel. Sa femme se trouve dans une autre cellule. Quant au chat, il a été placé dans une clinique vétérinaire. Pendant plusieurs jours, Lucette n'a même pas la force de manger. Elle ne sait pas si Louis Ferdinand est en vie. Et s'il est en vie, elle se demande s'il ne va pas être très vite fusillé.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est Louis-Ferdinand Céline qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, alors nous sommes en cette fin d'année 1945 et Lucette est en prison.
28 décembre 1945, Lucette a fait 10 jours de prison. Elle est donc la femme de Louis-Ferdinand Céline. Elle est libérée, elle récupère le chat du couple, Bébert, qui est un peu notre fil conducteur, vous l'aurez compris. Bébert que Céline surnomme le lutin de gaieté. Céline reste donc en prison. Il sait que la France a demandé son extradition, mais le ministre danois des Affaires étrangères veut des précisions sur la teneur exacte des charges qui pèsent sur lui. L'affaire va dès lors traîner pendant des mois et des mois. Dans sa cellule, et il faut noter que c'est la cellule réservée aux condamnés à mort, entre les heures d'écriture pénibles et les interrogatoires qui se succèdent, Céline voit sa santé s'aggraver. Il souffre de dysenterie, il a de nombreux maux de tête, des rhumatismes au cœur, des lumbagos, il perd ses dents, il pèse 60 kilos, il est transporté plusieurs fois à l'infirmerie de la prison et à l'hôpital. Et Lucette vient le voir au parloir. Elle vient tous les lundis, elle lui apporte de la lecture, elle lui donne un peu à manger, de quoi améliorer l'ordinaire. Céline va lui écrire pendant cette période plus de 400 lettres dans lesquelles il se compare à des écrivains persécutés à différentes époques et pour des raisons bien diverses. Villon, Chateaubriand, Victor Hugo, bien sûr, Rimbaud. Après 14 mois de détention, le 26 février 1947, sur pression de son avocat qui s'appelle Mikkelsen, Céline est transportée à l'hôpital national de Copenhague, où il est maintenant libre de ses mouvements, dans l'enceinte en tout cas de l'établissement. Il peut correspondre, il peut recevoir qui il veut. Quelques mois plus tard, le 24 juin à 11h du matin, il est officiellement libéré. Pendant 11 mois dès lors, jusqu'en mai 1948, Céline et Lucette vont habiter sous les toits, dans une sorte de petit logement. Durant cette période, l'auteur de Mort à crédit accorde des interviews. On lui demande évidemment et presque toujours de parler des Juifs. Et dans un journal, samedi soir, il affirme « C'est fini, c'est dépassé. Plus jamais je ne parlerai des Juifs. » D'ailleurs, les catastrophes qui se préparent dans le monde font que ces petites questions ariennes sont complètement dépassées. Mais en France, de nombreux écrivains et intellectuels ne sont pas prêts à lui pardonner, à l'instar de Sartre, que Céline appelle l'agité du bocal, vous savez. Céline s'installe avec son épouse chez son avocat au domaine de Klarskovsgaard, une propriété de 20 hectares au bord de la Baltique, à une centaine de kilomètres de Copenhague. C'est encore Lucette qui raconte. Louis Ferdinand vécut ce séjour tragiquement comme un lion en cage, et puis il y avait ces déménagements incessants d'une maison à l'autre, comme des domestiques qu'on loge, comme on peut et que l'on chasse dès qu'on a besoin de récupérer les lieux qu'ils occupent. Même changer de cellule pour un prisonnier qui ne possède presque rien, c'est un monde de désarroi. Il va pourtant y rester 3 ans. Céline écrit toujours des lettres où il fulmine contre ses ennemis. Il rappelle qu'il est un patriote absolu. Il va recevoir des amis, comme l'écrivain Marcel Aimé. Mais durant cette période, sa femme, Lucette, tombe malade. Elle est mal opérée d'un fibrome et elle va mettre plusieurs mois à s'en remettre. Pendant ce long exil danois, le mandat d'arrêt contre Céline est finalement levé. La justice reproche simplement à l'écrivain d'avoir écrit sous l'occupation un livre antisémite, Les Beaux Draps, et donné son accord à la réimpression de Bagatelle pour un massacre en 1943. On reviendra évidemment sur ces deux titres qui sont essentiels. Le 21 février 1950 se tient le procès de Céline à Paris. Évidemment, vous aurez compris que l'écrivain n'est pas présent, vont défiler à la barre un certain nombre de personnes qui témoignent en sa faveur. Je pense à Marcel Aimé, à Arletty, entre autres. Il est condamné par contumace à 1 an de prison, une peine qu'il a déjà effectuée au Danemark, et à 50 000 francs d'amende. Il est en état d'indignité nationale. La moitié de ses biens sont confisqués. Et 1 an plus tard, le 1er février 1951, les cours de justice sont, ces cours spéciales, disons, sont supprimées. Il n'y a plus que les tribunaux militaires qui peuvent maintenant traiter des affaires consécutives à l'épuration. L'avocat de Céline, qui est le célèbre Jean-Louis Tixier-Vignancourt, tente à ce moment-là le tout pour le tout et il obtient. On va venir tout à l'heure sur cette amnistie de Céline. Il se trouve qu'il y a un article de la loi d'août 47 qui accorde l'amnistie aux grands invalides de guerre condamnés à moins de 3 ans de prison et qui n'ont pas été reconnus coupables de dénonciation ni de fait ayant entraîné la déportation. Vous voyez que ce sont des conditions très précises. Or, Céline a participé à la Première Guerre mondiale. C'est un invalide de guerre qui a reçu la Croix de guerre, évidemment. Le 30 juin 51, ils vont donc quitter le Danemark. Quand je dis « ils », c'est Louis Ferdinand, bien sûr, Lucette et le vieux chat Bébert, ainsi qu'une chienne, Bessie, et puis 4 autres chats. Il y a toujours beaucoup de chats dans l'entourage de Céline. Pour la première fois de sa vie, l'écrivain prend l'avion et malgré un violent orage qui secoue beaucoup l'appareil, il est heureux de revenir en France après 7 ans d'exil. Mais même si en France, certains n'ont pas oublié son talent, Gallimard le réédite, publie ses nouveaux ouvrages, Il n'empêche que plus personne ne s'intéresse véritablement à l'œuvre de Céline. Il va tomber dans une forme d'oubli. Il est de plus en plus solitaire, taciturne, fatigué et malade. Il ressemble de plus en plus à un vieillard alors qu'il n'a même pas 60 ans à ce moment-là. Il est marqué par la mort du plus fidèle de tous, le fameux chat Bébert, qui meurt fin 52, et puis de la chienne Bessie. Il est installé dans un pavillon de Meudon avec son épouse Céline. Il redevient un médecin. Il écrit également ses derniers livres, dont D'un château l'autre, qui revient justement sur le séjour à Sigmaringen. Le samedi 1er juillet 1961, en ce samedi 1er juillet, une chaleur caniculaire règne sur la France. Céline meurt chez lui d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 67 ans. Bonjour Frédéric Vitoux.
Bonjour.
J'ai de manière très factuelle raconté les dernières années de Céline. Alors, l'œuvre, si je puis dire, et l'inspiration, je vous les laisse et nous y venons ensemble dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, vous avez décidé de la consacrer à l'auteur Louis-Ferdinand Céline. Franck Ferrand, vous recevez Frédéric Vitoux de l'Académie française, auteur de La vie de Céline, paru chez Folio Gallimard.
Je pense qu'il n'y a pas, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça Frédéric Vitoux, il n'existe pas d'auteur pour lequel le fameux complexe de Sainte-Beuve soit plus criant. C'est-à-dire que faut-il comme Proust ne s'intéresser qu'à l'œuvre ou faut-il comme Sainte-Beuve expliquer l'œuvre par la vie? Dans le cas de Céline, vous avouerez que la question est particulièrement cruciale.
Elle est particulièrement cruciale en effet. Ce qui est sûr, c'est que toute l'œuvre de Céline s'inspire plus ou moins directement de la propre vie de l'auteur. Donc cette séparation de l'œuvre d'un côté et de la vie de l'autre est difficile à faire
oui,
pour Céline.
Même si on a tendance à beaucoup le faire aujourd'hui pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que l'attitude de Céline et son antisémitisme très virulent ont fait qu'on a beaucoup de mal à parler du bonhomme et de sa vie.
Bien sûr.
Mais l'œuvre, elle, demeure considérée comme une des plus importantes du XXe siècle.
Certainement. D'ailleurs, Céline lui-même le pressentait, car après la guerre, voulant en quelque sorte faire oublier ou faire pardonner les idées, et je mis le mot « idée » avec tous les guillemets, les prudences, ces idées, ces délires, ces vociférations antisémites insoutenables de la fin des années 30, le disait « je ne suis pas un homme à message, je ne suis pas un homme à idée, je suis un homme à style et à émotion ». Donc il voulait tout concentrer sur ce qu'il avait à ses yeux inventé, et ce qui est vrai, c'est une écriture,
une sorte presque
un style,
de nouvelle langue,
une tonalité, une nouvelle langue, en effet, unique à peu près, et qui font de lui aujourd'hui, de l'avis à peu près unanime des commentateurs, des critiques dans le monde entier, l'un des grands écrivains français du XXe siècle.
Il faut pas Alors ce qui est assez étonnant, et nous fermerons très vite cette parenthèse, mais c'est que c'est un des grands écrivains, entre guillemets, de déstructuration. C'est ce qui est paradoxal, bien entendu. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la construction d'une langue, on est dans son interprétation et dans une sorte de langue parallèle quasiment.
Je pense pas. Je pense qu'en effet, il a cassé les formes du français classique, mais comme tout poète, il a réinventé un ton, un langage qui n'est pas du tout
entrer
le langage argotique comme on le croit trop souvent.
Il a fait entrer la langue parlée dans une langue écrite aussi,
oui,
peut-être.
C'est ça, mais en la faisant rentrer dans la langue écrite, il a écrit une langue extrêmement savante, extrêmement poétique et qui est une langue de la pure suggestion. Et j'allais dire, pour cet écrivain qui est souvent si vociférant, une langue parfois qui est celle du murmure. L'une des traces de ponctuation la plus fréquente chez lui, c'est les points de suspension. Et les points de suspension, c'est du silence, c'est ajouré. La mère de Céline était dentelière et par certains côtés, le style de Céline, c'est de la dentelle avec des jours entre les mots et donc une sorte de poésie très légère, malgré ce côté, en effet, tonitruant qu'il a aussi. Le drame de Céline, le problème de Céline et la difficulté de parler de Céline, c'est que l'on est sans arrêt avec Céline, dans les contradictions les plus absolues. Le médecin des pauvres, l'homme de la compassion et en même temps l'homme qui crie les pamphlets violents les plus insoutenables. Un homme qui est un novateur d'un style qui a marqué beaucoup de gens. Sartre a reconnu sa dette envers Céline, c'est pas par hasard. Si dans le mur, il a mis en épigraphe une phrase de Céline, Henri Miller, tant d'autres. Et en même temps, c'était un homme qui était totalement passéiste. C'est un homme qui se lie plus ou moins, parce que c'est très compliqué avec les ordres nouveaux totalitaires, mais c'est un homme dont l'ambition, l'idéal, c'est le monde d'avant 1900. Donc, chaque fois qu'on dit une phrase sur Céline, elle est juste et le contraire est vrai.
Eh oui, c'est ça. C'est une ambivalence.
C'est une ambivalence terrible.
Ce qu'on appelle dans les études linguistiques, c'est d'une polysémie immense. Chaque mot a plusieurs sens, chaque phrase aussi. Et même les postures de Céline elle-même peuvent être, comme dans un jeu de miroir et d'abîme, peuvent être constamment réinterprétées. Alors, je ferme justement cette parenthèse pour évoquer le film. Vous l'avez vu, ce fameux film, Frédéric Vitron?
Oui. Oui, j'ai vu ce fameux film. C'est un film qui ne prend qu'un pan très réduit de la vie de Céline, une vingtaine de jours entre fin juillet et début août 1948, lorsqu'un jeune universitaire américain, juif, qui s'appelle Milton Indus, a été bouleversé par Voyage au bout de la nuit. Il a écrit à Céline, il est ému par le sort de Céline en exil au Danemark. Et il l'encourage, et Céline est très émue de voir un universitaire américain juif de surcroît lui tendre en quelque sorte la main. Et ce Milton Indus, après avoir passé par Paris et avoir rencontré des amis de Céline, arrive au Danemark et veut comprendre aussi ce qui est pour lui la contradiction absolue. Comment un homme qui a pu écrire Voyage au bout de la nuit, qui est un livre antimilitariste, anticolonialiste, par son à côté plein d'une compassion pour la misère humaine, a pu sombrer dans l'abjection des pamphlets antisémites qui, pour l'essentiel, rappelons-le, sont des pamphlets d'avant-guerre. Faut bien rappeler que Bagatelle pour un massacre, c'est 37 et L'école des cadavres, 38.
Tout à l'heure, lorsque, encore une fois, de façon très factuelle, j'ai raconté, en quelque sorte, la biographie sèche de Céline sur les dernières années de sa vie, j'ai bien conscience d'avoir pu peut-être choquer certains auditeurs en évoquant une condamnation extrêmement légère de la part des tribunaux français. Mais c'est parce que, justement, disons bien, et c'est très important, que les grands écrits qui lui sont si amèrement et durement et justement reprochés sont des grands écrits d'avant la guerre.
Hein. Voilà un paradoxe de Céline. Il écrit un livre dans sa jeunesse qui s'appelle Mort à crédit. Et dans Mort à crédit, il fait la peinture de son père.
On est dans les années 30, là.
Voilà. Et ce livre paraît en 36 et il évoque son père dans les années 1900. Son père est un petit bourgeois qui travaille dans une compagnie d'assurance et il est un peu brimé par ses supérieurs et il dit c'est la faute des juifs. Et Céline démonte les mécanismes de l'antisémitisme, le juif comme bouc émissaire des Français ratés. Et on n'a jamais eu dans la littérature française un portrait aussi féroce de l'antisémite que dans le livre. Et pourtant, deux ans après, Céline bascule dans cette folie-là pour des raisons qui sont très longues. Dans ma grande biographie de Céline, j'ai consacré 150 pages à l'antisémitisme tellement il est difficile à comprendre. Il est tellement difficile à comprendre qu'un Sartre, dans ses réflexions sur la question juive, n'arrive pas à s'en sortir et écrit cette phrase stupide. Si Céline a été antisémite, c'est qu'il était payé par les Allemands, ce qui était objectivement faux.
Oui, non.
Alors, le paradoxe, c'est que Céline, pendant la guerre, n'est pas à proprement parler un collaborateur. Il n'est pas un journaliste qui écrit des articles rémunérés dans des journaux collaborateurs. Il est l'antisémite par excellence, l'écrivain antisémite qu'il reste. Et surtout, et vous l'avez justement rappelé, c'est son crime le plus impardonnable en quelque sorte. C'est qu'il accepte de réimprimer sous l'occupation, alors qu'il y a la persécution juive, l'étoile jaune, et qu'on va découvrir peu à peu la réalité innommable des camps de déportation qui seront les camps de la mort, il accepte qu'on réimprime ces pamphlets. Et là, il n'y a pas d'excuse.
Ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Comment vous expliquez ça?
Céline est souvent considérée comme un écrivain visionnaire, parce qu'il y a des visions, des hallucinations chez lui. Et je crois, et ce n'est pas un paradoxe, que le propre d'un écrivain visionnaire, c'est de ne rien voir. Ou plutôt, le visionnaire ne voit et n'amplifie que ce qui est sa propre expérience tout autour de lui. Donc Céline magnifie à un niveau d'apocalypse, de style complètement éclaté dans une sorte de pyrotechnie incroyable, sa propre expérience et il ne comprend rien du monde autour de lui. Et ça peut déboucher sur l'inhumanité ou l'égoïsme le plus absolu. C'est-à-dire qu'il ne se rend même pas compte qu'il y a des gens qui souffrent autour de lui. Il ne voit que sa propre souffrance. Et dans les derniers livres, quand il décrit sa traversée de l'Allemagne qui s'écroule, il trouve un sujet d'apocalypse qui est ce qu'il a vu et non pas ce qu'il aurait dû comprendre de l'antisémitisme. C'est encore une fois... Donc, si on en revient à Milton Indus, ce Milton Indus arrive
Donc, au film,
il arrive, il voit Céline... Il veut lui faire parler. Or, Céline n'était pas un homme qui parlait. Ce n'était pas un homme d'échange, de monologue. C'était un homme plutôt de monologue et non pas de dialogue. Dans mon dernier livre qui s'appelle « Au rendez-vous des mariniers », à un moment donné, je raconte une rencontre incroyable entre Mauriac et Céline dans un petit bistrot de l'île Saint-Louis. Et je me dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et j'imagine que Mauriac n'était qu'un sort de gros char à Minagrobis qui devait observer Céline, cette énergumène qui venait de débouler dans la vie littéraire en 1932 avec ce roman qui a tout secoué dans la sensibilité littéraire de cette époque. Il a dû l'observer. Et
voyage au bout de la nuit, en l'occurrence.
Voilà, voyage au bout de la nuit. Et Céline a dû partir dans ses délires, dans ses élucubrations. Et c'est très difficile. Malheureusement, le film ne le rend pas bien,
oui,
ça.
Oui, alors, c'est-à-dire que cet interlocuteur ne comprend pas Céline.
Voilà.
Il en a tiré lui-même une relation dont le film est inspiré,
voilà.
Ce qui finit par donner une incompréhension complète.
C'est-à-dire qu'on a le point de vue, pourquoi pas, on a le point de vue du jeune, de ce très jeune et naïf universitaire qui voit Céline, qui essaye de lui faire parler de l'antisémitisme et il se heurte à un mur et à un homme qui ne peut pas lui répondre. Et du coup, il y a des malentendus, Céline n'est pas un homme aimable. Il faut bien le dire, c'est un homme qui vit dans son monde, qui souffre, qui a des maux de tête, qui n'a pas été trépané comme il l'a dit en 14, mais qui souffre malgré tout de grandes hallucinations auditives et de névralgies terrifiantes. Et c'est une catastrophe cette rencontre. Et voilà, et c'est le sujet du film. Alors bien sûr, l'acteur Denis Lavant fait des poids de méritoires efforts pour incarner Céline, mais Céline était grand, Lavant est petit
oui.
Il monte de lui. Au fond, on a la vision d'un vieillard gâteux, paranoïaque, éructant, bavant, et on n'a rien de ce qui était la beauté de Céline.
Alors,
et le génie de ses dialogues.
Je vous propose de venir à ce génie et à cette forme de beauté. Dans la deuxième partie, on va revenir sur l'inspiration même de Céline.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.com.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Louis Ferdinand Céline à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Frédéric Vitou de l'Académie française et auteur de La vie de Céline, paru chez Folio Gallimard.
Évidemment, dans le cadre d'une émission comme celle-ci, Frédéric Vitou, nous ne pouvons pas tout évoquer. Mais il faut peut-être revenir sur un certain nombre des éléments qui sont... Alors là, c'est Sainte-Beuve, hein, pour le coup, mais vous l'avez dit tout à l'heure, les deux sont inextricablement liés sur quelques éléments structurants. D'abord sur les origines, sur le milieu d'origine de Céline.
Oui, Céline est un... Au fond, le fils...
Louis Ferdinand Céline, hein, je dis
oui,
pour ça, tous ceux qui nous
rejoignent. Son vrai nom, Louis Destouches.
Destouches.
Céline, c'est pas par hasard. Il a choisi le pseudonyme de Céline car c'était le prénom de sa grand-mère maternelle, une grand-mère qu'il avait profondément aimée. Donc Louis Destouches est le fils d'un petit commerçant dans les assurances et d'une mère qui répare des dentelles. Et son enfance, il va le passer dans ce passage Choiseul, ces passages couverts du centre de Paris, et qui, dans une atmosphère un peu de cloche, d'étuve, on ne mange que des nouilles parce que la nouille ne dégage pas d'odeur. Et quand sa mère répare des dentelles, il ne faut pas que les dentelles s'imprègnent de l'odeur de charcuterie ou de friture. Et donc, il y a ce milieu de l'enfance avec d'un côté le père qui est un rêveur, un peu bon à rien, et le côté maternel, c'est le côté breton, les pieds sur terre, on a le sens des réalités.
Est-ce qu'il n'est pas la synthèse des deux, lui, finalement, un peu?
Précisément, c'est pour cela que je mets l'accent, vous avez raison. Et donc, il fait des études, il passe son certificat d'études, il connaît très bien l'allemand, il connaît très bien l'anglais, car il était dans des petits collèges en Allemagne qu'il a détesté, parce qu'il hait l'Allemagne et il aime l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, c'est aussi les bateaux, c'est la rêverie, c'est les grands espaces, c'est l'aventure maritime. Et Céline va s'engager, donc très jeune, après son certificat d'études et des petits boulots de commis dans le commerce, il va s'engager dans l'armée en 1912.
Donc on est à la veille de cette Première Guerre mondiale qui va tout changer pour
voilà.
lui.
Et ça va tout changer, parce que après donc ses séjours dans les cuirassiers, il est dans les premiers combats de 14, alors que c'est pas encore les armées ne sont pas encore vraiment enterrées dans des tranchées, il est blessé très grièvement et réformé. Mais ce qu'il a vu de la guerre, comme pour beaucoup d'écrivains d'ailleurs de sa génération, va marquer tellement Céline qu'il va en garder un pacifisme à tout craint. C'est l'une des raisons, je dis bien l'une des raisons, et ce que a souligné très bien Léon Poliakov dans son histoire de l'antisémitisme de Céline. Il est contre les Juifs, car dans son esprit délirant, Hitler étant contre les Juifs poussent à la guerre contre Hitler.
Donc c'est une sorte de pacifisme exacerbé
oui.
et retourné, en fait.
Voilà.
Hein.
Mais quand son pamphlet qui s'appelle « Bagatelle pour un massacre », contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas le massacre des Juifs. C'est le massacre à venir d'une guerre mondiale pour lequel il écrit, croit-il, des choses légères et amusantes pour éviter cette nouvelle hécatombe que va être une nouvelle guerre mondiale.
Est-ce que le médecin s'exprime dans l'œuvre de Céline?
Oui, je le pense, parce que dans certaines des plus belles pages de Céline, il y a cette... à la fois ce pessimisme total de l'homme qui est sûr que la seule vérité de ce monde, c'est la mort, et qu'on n'en sort pas, et que l'homme est maudit, que l'homme vit dans la méchanceté, dans l'aigreur, dans la rancœur, mais qu'il y a parfois des moments de grâce, et les moments de grâce, c'est les gens qui souffrent, et qu'il faut soigner, et aussi c'est les animaux qui ne parlent pas, donc ils ne s'abîment pas dans le mensonge, ou la danse, ce qui échappe aussi à la pesanteur terrible des hommes. Donc, sans arrêt, arrive chez Céline, dans ses plus belles pages compassionnelles, ce regard de l'homme infiniment sensible à la souffrance des hommes.
Et à la souffrance des êtres. Vous aurez remarqué la place que j'ai réservée au chat bébert hein, dans ce petit récit introductif. Ça doit vous parler, cette proximité avec les animaux en général et les chats en particulier.
Bien sûr, on va dire un de mes premiers livres sur Céline, après ma thèse de doctorat, a été un livre sur bébert, le chat de Céline, qui était pour moi une manière un peu souriante d'aborder la deuxième partie de la vie de Céline.
J'ai dit en commençant cette émission que vous aviez été l'un des tout premiers en France à vous intéresser à l'œuvre de Céline, en fait, hein, oui. En tant que jeune doctorant.
Oui, c'est ça. C'était au début de l'année 1968 à l'université de Nanterre. Vous voyez, c'était pas évident, mais j'avais trouvé un professeur qui avait accepté d'être directeur de thèse.
Qui n'y connaissait rien lui-même, du reste.
Personne ne connaissait. Il m'a dit, écoutez, je veux bien diriger votre thèse, mais à une condition, c'est que je pourrais pas du tout vous aider. Donc, vous me tiendrez au courant de vos travaux. Et je vous demande de ne parler que des deux premiers romans de Céline, Voyage au bout de la nuit de 1932, Mort à crédit de 1936. Après, Céline bascule dans l'antisémitisme, donc il est disqualifié, donc il ne faut pas en parler. Ce qui était pour moi très suffisant d'aborder ces deux grands,
ces deux immenses romans, mais en même temps stupide.
Parce que Céline est un bloc avec ses zones d'ombre effroyables et ses lumières, et qu'il faut prendre Céline comme un tout pour l'aborder sans évacuer. Il n'y a pas un bon et un mauvais, il y a un homme unique avec tout ce qui le tend, le sous-tend, et il faut essayer de le comprendre. Je ne dis pas de l'excuser, on n'en essaie pas le sujet. Essayer de comprendre cet homme, et aussi pour mieux saluer aussi une œuvre colossale.
Oui. Vous entrez dans votre biographie aux côtés de Céline. Vous le comprenez au sens très fort du mot, justement, et vous nous montrez un Céline très inattendu, c'est celui des années 30, qu'on retrouve dans ce dîner avec Mauriac dans Au rendez-vous des mariniers, en fait. Hein,
c'est... Oui, c'est-à-dire que c'est très curieux, parce qu'on a l'image d'un Céline écrivain tardif, et qui est une sorte d'asocial, clochardisant, vivant seul, après la guerre dans sa maison de Meudon, où sa veuve habite toujours, du reste, elle a 103 ans, elle continue à habiter
là. À l'heure où nous parlons.
Et ce qui est très étonnant, c'est que Céline, en 1932, à l'âge de 38 ans, écrit Voyage au bout de la nuit. Ce livre fait l'événement, comme on dit. Il rate le Goncourt, il a le prix Renaudot, mais c'est le grand livre dont on parle durant ces années-là. Et Céline, elle veut s'intégrer au monde littéraire. Donc, il va dans des dîners en ville, il rencontre les uns, les autres, il est très flatteur avec les écrivains qui comptent. Il leur dit, quand ils ont une critique, mes chers maîtres, mon prochain manuscrit, je vous l'enverrai pour que vous me donniez vos critiques. C'est très amusant. Et puis, en 36, il fait paraître Mort à crédit. À contre-temps, c'est un livre totalement intimiste, au moment du Front populaire. Et là, les critiques les plus enthousiastes pour le voyage se tournent contre lui, et c'est des tombereaux d'injures.
Après avoir été porté au nu, il est jeté dans la boue.
Oui, même les gens qui l'aimaient bien, comme Lucien Descaves ou Léon Daudet, de la gauche à la droite, qui l'avaient défendu, l'ignorent. Et quand on regarde les critiques qu'a eu Mort à crédit, on était effarés. C'était florilège de Vespasienne, tombereau d'injures, des latrines, enfin... On a vu son éditeur de l'époque, qui était de Noël, Robert de Noël, écrire ce qui ne s'était jamais vu, un petit livre pour défendre son auteur, en s'amusant à reprendre les critiques ignominieuses, insultantes qu'avait connues Céline, en les mettant à côté des critiques insultantes qu'avait reçues Zola pour l'Assommoir. Et il les met en parallèle pour montrer quand même cette injustice. Et Céline va en être tellement aigrie qu'il va se couper totalement du monde littéraire. Et, si je puis dire, brûlant ses vaisseaux, il va être aussi l'antisémite que nous connaissons.
Et est-ce que, justement, l'antisémitisme, d'une part, et plus généralement même le caractère extrêmement acrimonieux de Céline, ne sont pas liés à ce rejet, en quelque sorte? Est-ce que ça n'est pas une réponse?
Oui, il y a deux choses. Il y a l'échec absolu de Mort à crédit qui l'ulcère, qui le blesse, qui le coupe définitivement du monde littéraire. Et juste après la sortie de Mort à crédit, durant l'été 1936, il va en Russie. Non pas invité par Staline, mais pour dépenser...
C'est un peu le contre-voyage de Gide, hein, si on peut dire.
C'est-à-dire qu'il y va là-bas, il va rester pratiquement uniquement à Leningrad, pour dépenser les droits d'auteur de Voyage, qui a été salué par les communistes aussi. Elsa Triolet a traduit Voyage au bout de la nuit, il ne faut pas l'oublier. Et il va dépenser ses droits d'auteur à Leningrad et il découvre la réalité du monde soviétique. Et il est effaré. Et un livre comme Bagatelle pour un massacre, ce pamphlet antisémite, est aussi pour moitié... On ne le lit pas, Bagatelle, et on peut s'en dispenser, par hygiène intellectuelle et morale, si j'ose dire. Mais il ne faut pas oublier que la moitié du livre, c'est le récit de son voyage en Russie, qui alterne avec ses élucubrations antisémites qui sont insoutenables, surtout à la lumière de ce qui va venir quelques années plus tard.
Vous voyez encore Lucette aujourd'hui ?
Oui. C'est une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle a toute sa tête, elle a beaucoup d'humour, de malice. Et moi, elle m'a raconté, par exemple, comment, quand Céline avait écrit son premier pamphlet antisémite à Saint-Malo en 37, elle lui avait dit « Mais Louis, tu ne peux pas écrire ça, tu es fou. C'est insoutenable que tu écris, ne le publie pas. Tu vas t'attirer la haine de tout le monde. » Et Céline répond « Non, non, tout le monde va me remercier, même les Juifs vont me remercier. J'essaye d'éviter une guerre. » Et Céline était dans un délire, où à la fois il était très conscient de ce qu'il écrivait, mais par certains côtés, une sorte d'irresponsabilité. Céline est l'antisémite emblématique de la petite bourgeoisie dont il est originaire, mais c'est aussi un délirant. Ramon Fernandez, qui va organiser le repas entre Mauriac et Céline, racontait que pendant la guerre, il est avec Céline, il voit défiler un régiment d'Allemands rue de Rivoli, marchant le pas de l'oie, etc. Et Céline dit à Ramon Fernandez, mais t'as vu mon vieux, t'as vu, c'est déprimant. Lui dit, bah oui, des soldats allemands à Paris, c'est horrible. Bien sûr, c'est horrible. Mais regarde-les sur ces petits brins-là. Il n'y a pas un qui n'est pas juif, mon vieux. Il n'y a pas un qui n'est pas juif, dit-il en montrant un régiment incroyable allemand qui défile. Donc, ça...
On n'est pas très loin du délire.
Ah, bah, oui. Je veux dire, ça ne l'excuse pas. Mais chez Céline, le délirant, l'antisémitisme aboutit à un certain niveau à une irrationalité délirante.
Eh bien voilà, j'avais promis à nos auditeurs que vous assumeriez toute cette part d'inspiration. Le moins qu'on puisse dire est que le contrat est rempli. Merci infiniment. Frédéric Vitoux de l'Académie française, La vie de Céline, qui est réédité chez Folio, et puis donc votre nouvel ouvrage, Au rendez-vous des mariniers. Il n'y a pas que, évidemment, Céline et Mauriac
et d'autres.
Ils sont tous là. Merci beaucoup, Frédéric Vitoux.
Merci.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous donnera les origines du port de la cravate chez les hommes. À tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question de Philippe sur la page Facebook de l'émission. Il voudrait en savoir plus sur le port des cravates chez les messieurs.
Commençons par dire qu'il y a eu des cravates dans une époque extrêmement reculée. Vous savez que dans la Rome antique, on connaissait cet accessoire sous le nom de focalium. Et l'Orient n'est pas en reste puisqu'on a retrouvé des vestiges de cravates, si je puis dire, en tout cas de foulards noués autour du cou lors de la découverte du fameux mausolée de l'empereur Qin dans les années 70. Hein, c'est cet empereur chinois du 3e siècle avant notre ère et qui est enterré avec 8000 statues de soldats qui toutes ont ce foulard noué autour du cou. Alors en France, il faut attendre que Louis XIII enrôle les fameux mercenaires croates dans son armée pour que l'écharpe croate rencontre un certain succès, et vous voyez d'où vient le terme de cravate. Eh oui, ça vient d'une altération du mot croate. Croate, cravate, voilà comment c'est venu. On met au placard les jabots de dentelle et les vieilles fraises, et l'on se lance dans ces foulards qu'on se met à nouer de toutes les manières possibles. C'est sous le règne de Louis XIV que la cravate, maintenant on peut ainsi l'appeler, va connaître le plus grand succès. Le roi Soleil a été conquis, il ira jusqu'à créer un poste de cravate. Cravatier, s'il vous plaît, un officier qui répond aux ordres du grand maître de la garde-robe du roi. Les courtisans, à ce moment-là, se mettent à rivaliser d'audace pour égaler le roi et on va avoir des cravates qui sont ornées de rubans colorés, etc. Elle va évoluer, cette cravate, au fil du temps, bien entendu. C'est Balzac qui disait que nouer sa cravate constitue presque un art. Il conclut ainsi son traité de la cravate. Il s'agit d'un chapitre de son traité de la vie élégante de 1830, je le cite, « Une cravate bien mise, c'est un de ces traits de génie qui se sentent, qui s'admirent, mais ne s'analysent ni ne s'enseignent. »